Est-ce que le micro, ça va bien? Oui. OK. Voilà. Bon, ben merci de me donner la possibilité de vous parler d'un message que Dieu m'a mis à cœur. En fait, j'avais proposé différents thèmes à Adama, et puis il a choisi celui-ci sur Dieu le Père. Et j'étais content parce que c'est mon sujet préféré pour enseigner. Donc, voilà. Connaissez-vous le livre « Crazy Love » ? Donc, c'est Francis Chan, c'est un livre qui a été beaucoup vendu et lu. Et il a fait un livre un peu moins connu sur le Saint-Esprit, parce qu'il avait l'impression que le peuple de Dieu avait besoin d'être instruit sur le Saint-Esprit. Et il l'appelait le « Dieu oublié ». Donc, Dieu oublié ici, on voit en haut trois ronds, trois cercles qui représentent les trois personnes divines. Et le Père est coché, le Fils est coché, et le Saint-Esprit est vide. Et lui, il se sentait le besoin d'écrire un livre là-dessus. Moi, si j'écrivais un livre, ça serait sur le Père. Et c'est ce dont je vais vous entretenir aujourd'hui. Donc, le Père, Dieu méconnu. Okay, j'ai illustré avec un papa, avec soit une petite fille ou un petit-fils, parce qu'on va faire l'analogie fréquemment, et ce n'est pas pour rien que le Père s'appelle le Père et que les Pères terrestres aussi s'appellent des Pères. Il y a un lien entre les deux. Et je l'intitule le Père, Dieu méconnu, pas parce qu'on ne le connaît pas. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez une connaissance sur Dieu le Père, j'ai une connaissance, mais on le connaît peu. Je pense qu'on le connaît peu dans différentes assemblées et différents horizons que j'ai pu voir. Donc, on va se porter au ciel, où est notre Père, en fait, au troisième ciel. On a parlé du paradis ce matin. Connaissez-vous Jean 14, 6? C'est un des premiers versets que j'ai appris depuis que je suis devenu chrétien, il y a 27 ans. Jésus lui dit, parle à Thomas, on est, je pense, dans la chambre haute, c'est les derniers moments avant la crucifixion, c'est très intense. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et c'est un verset vraiment important, notamment pour l'évangélisation, parce qu'il y a un seul chemin pour aller au Père. Il y a un seul chemin, c'est Jésus, c'est pas Mahomet, c'est pas Bouddha. Ce n'est pas moi-même, c'est Jésus-Christ, un seul chemin. Mais la deuxième partie, des fois, on l'oublie, on le perd de vue. Nul ne vient au Père que par moi. Le chemin, ça mène où le chemin? C'est quoi le but du chemin? Je pose la question. Le but du chemin, c'est d'aller au Père. C'est ça le but. Il y a un seul chemin, mais le but, c'est d'amener au Père. Et dans l'Évangile de Jean, quand vous le relirez, vous allez voir cette relation-là du Père et du Fils et l'importance sur le Père. Donc, ma prière, on a prié tout à l'heure, ma prière devant Dieu avec vous, c'est qu'ensemble, on connaisse mieux notre Père. Pour mieux l'apprécier, si je le connais mieux, je vais mieux l'apprécier. Et mieux apprécier mon identité d'enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, ça n'a de sens que parce que j'ai un Père. Et finalement, être les imitateurs du Fils et des apôtres dans leur relation avec le Père. On va voir ça au travers de la présentation, quelle relation ils avaient avec le Père, et les imiter. Et je vais souvent parler de Jésus comme étant le Fils pour mettre en évidence sa relation de Fils avec le Père. Donc voilà. Quelques informations sur moi. D'abord, je ne suis pas ingénieur. Je tiens à le préciser pour ne pas avoir des poursuites judiciaires contre moi. Je suis agronome, mais en Europe, peut-être en Afrique, on appelle les ingénieurs agronomes, et c'est sans doute pour ça que je suis agronome. Je travaille en environnement. Et je viens de Bécomo, mais j'ai surtout vécu à Québec. Et je vais vous parler de mon parcours en tant qu'enfant. D'abord, j'ai eu un papa Est-ce que vous avez déjà eu un père? Oui. C'est impossible de ne pas avoir de père. Peut-être qu'il y a des cas particuliers où on ne connaît pas son père. Mais chacun a un père et une mère. Donc, voici une photo de mon père quelques temps avant qu'il décède. Mon père s'appelait Gaston. Et puis, c'était mon père, mon papa. Et je me rappelle mes souvenirs les plus lointains, quand j'avais environ 3 ans. Je me rappelle, mon père jouait avec moi. Il me mettait sur ses épaules, on faisait du cheval. Puis, il me prenait par la main, moi et mon frère, il nous faisait tourner. Un peu plus tard, j'allais à la pêche avec mon père. Et c'était ça, c'était mon père, mon papa. Et puis, on dit que je lui ressemble, que je lui ressemblais. Et c'est normal hein, qu'on ressemble à nos parents, des fois plus à notre mère, des fois plus à notre père. Moi, je ressemblais beaucoup à mon père, tel fils. Donc, j'ai hérité de certains traits, parce qu'à quelque part, je viens de lui. Je viens aussi de ma mère, je viens d'eux. Mon identité vient d'eux. Mais plus tard, à l'adolescence, mon père est devenu distant. Je l'ai manqué, mon père. Je l'ai réalisé plus tard. Bon, il y a eu les problèmes de boisson, les problèmes financiers à la maison, tout ça. Et je n'avais plus cette proximité avec mon père. Et j'en aurais eu tellement besoin. Tellement besoin de ses conseils, d'une tape dans le dos. Et ça m'aurait évité bien des erreurs. Donc, mon père était manquant. Père manquant, fils manqué, ça a été un livre assez populaire au Québec. C'est vrai, un fils qui n'a pas de père ou un père absent, ça a un impact. Mais à 26 ans, plusieurs années plus tard, Dieu a ramené mon cœur à mon père. Sans que je m'attende à ça, il a mis en moi un amour pour mon père. Et en même temps, mon père s'était converti, je ne le savais pas, il habitait ailleurs. Mais Dieu a changé mon cœur. Et là, j'étais prêt à entendre le conseil le plus sage, le plus important qu'il avait à me donner. C'est « Sois sauvé, connais le Seigneur Jésus. » Et il me l'a amené d'une manière vraiment très sage. Et quelques temps plus tard, à 27 ans, j'ai connu le Fils de Dieu. Il s'est révélé à moi, d'abord dans les Écritures, mais d'une manière très personnelle par la suite, et j'ai crié à lui, et j'ai été sauvé, à 27 ans. Sonia, ça a été un peu plus tard, à peu près un an plus tard. Et pendant un an, je n'ai pas fréquenté d'église, ensuite j'ai fréquenté une petite église, et l'église où j'étais, on me parlait beaucoup du Saint-Esprit. Alors, j'ai entendu beaucoup parler du Saint-Esprit, et c'était concret aussi parce que quand Dieu accomplit quelque chose de surnaturel, que ce soit autour de nous ou à l'intérieur de nous, c'est par le Saint-Esprit. Donc, c'était assez concret. Mais c'est seulement à 37 ans que j'ai eu vraiment un rendez-vous avec mon Papa du ciel, avec mon Père céleste. Et ça s'est fait à l'occasion d'une maladie assez pénible, où j'ai crié à Dieu et il s'est révélé à moi comme un père. Je l'avais déjà, mais je n'avais pas cette connaissance. Et c'était le temps que le Père a choisi pour se révéler davantage à moi. Et après ça, quand j'ai lu l'Écriture, je voyais le Père comme jamais avant. Mon Père céleste. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. Je ne sais pas si vous aimez les quiz ou les sondages. Je vais sonder un peu votre cœur. La première question, ça va être un choix de réponse. Le Père, qui est-il pour vous? Et là, je vous donne un choix de réponse. A, l'Éternel de l'Ancien Testament. B, Dieu. C, une personne sévère et distante. D, Jésus. E, je ne sais pas trop. OK. A et B, oui, c'est des bonnes réponses. C, une personne sévère, oui, le Père est sévère. Mais ce n'est pas suffisant, il n'est pas distant. Ça, c'est une fausse idée, il n'est pas distant. Il a envoyé son Fils Jésus. Il n'est pas distant et il est bon. Okay? Donc, sévère tout seul, ce n'est pas suffisant. Jésus? Non, Jésus n'est pas le Père. Il est uni au Père, on va le voir, mais Jésus n'est pas le Père. Je ne sais pas trop. On va essayer de savoir davantage. À qui Jésus s'adressait-il dans ses prières? Au Père. Un exemple dans Jean 17:1, donc peu après, là, tout à l'heure, on était dans la chambre haute, dans le jardin de Gethsémané, ou vers là, jardin des Oliviers. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit. Premièrement, c'est intéressant, il a levé les yeux au ciel pour prier. Nous, des fois, quand on dit « prions », tout le monde baisse les yeux. OK. Je ne sais pas si c'est comme ça ici. Mais bon, c'est sûr que quand il y a un ciel étoilé, c'est plus inspirant de regarder vers le haut. Mais c'est ce qui suit qui est important. Père, et ça, il parlait à son père. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Jésus voit très bien sa relation de fils avec son père. Il l'appelle son père. C'est très concret pour lui. Et c'est un moment particulier. La croix s'en vient. Glorifie-moi pour que je te glorifie par ma mort et ma résurrection. Quels mots araméens Jésus et d'autres ont parfois utilisé pour parler du Père? Abba! Bonne réponse. Bravo! On voit ça dans Marc 14, 36. Jésus, dans le jardin de Gethsémané, qui agonise, il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Abba, ça veut dire quoi, Abba? Ça veut dire papa. Papa. On n'est pas habitué de dire père, nous, hein? Mais papa, on est habitué. Papa. Abba, c'est drôle, c'est pratiquement la même chose. Et quand un enfant vient au monde, la première chose qu'il dit, c'est Abba, Abba, Abba. Abba, papa. Bon, je pense qu'il y a un lien, mais ce n'est pas ça le point important. Abba, c'est comme ça qu'il parlait à son père. C'est intime, c'est proche, c'est pas distant. Dans Galates, Paul va dire, Galates 4, 6, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». C'est pareil, l'apôtre Paul, c'est pareil. Et c'est l'esprit, Dieu a envoyé l'esprit de son Fils, lequel crie en nous « Abba, Père, Papa ». À quelque part dans notre vie, c'est supposé sortir ça, « Papa », parce qu'on a reçu l'esprit du Fils. Romains 8, 15, c'est à peu près la même chose. Il va parler de l'esprit d'adoption. On est des enfants si vous êtes sauvés. Vous êtes un enfant adopté. L'esprit d'adoption. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de son Fils. C'est exprimé comme ça parce qu'il est envoyé par le Fils. Et il est l'esprit qui reflète le Fils. Et l'esprit d'adoption, l'esprit qui nous confère l'adoption. Avez-vous déjà crié à Dieu? Parce que tantôt, c'était l'Esprit qui crie. Qui crie! Papa! Je vous pose la question, avez-vous déjà crié à Dieu? Abba! Peut-être pas parce que ce n'est pas notre langue. Père! Peut-être pas parce qu'on n'est pas habitué, on n'a pas appelé nos papas père. Moi, je n'ai jamais appelé mon père père. Je disais papa. Mais avez-vous déjà crié? Papa! Papa! Ça a l'air fou, hein? Mais ce n'est pas fou. C'est l'esprit d'adoption qui crie à son papa. Avez-vous crié, papa? Rarement? Jamais? Ça se peut. Il n'est pas trop tard pour commencer. Vous pouvez peut-être le faire discrètement chez vous, pour que les autres l'entendent. Faites-le dans votre cœur, criez à un moment donné. « Au secours, papa! À l'aide! » J'ai crié ça cette nuit dans mon cœur. Ça m'a fait du bien. Donc, Jésus priait Abba, priait son Père. À qui Jésus maintenant a-t-il enseigné d'adresser nos prières? Comment il a enseigné ses disciples? À qui? Père. Hein, le premier verset qu'on a appris peut-être de notre vie, le Notre Père. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père. C'est comme ça que Jésus a enseigné à ses disciples. Notre Père. À qui les apôtres adressaient-ils généralement leur prière? Peut-être pas clair, à moins d'avoir fait une étude là-dessus. C'est au Père. On va le voir. 1 Pierre 1,3, donc l'apôtre Pierre, qui commence son épître. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul, 2 Corinthiens 1, 3-4, dans le début de l'épître. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pareil. Les deux apôtres, c'est pareil. Et pourquoi est-ce qu'il prie le Père? Parce que c'est Jésus qui leur a montré comme ça. Mais le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'avant d'être notre Père, avant d'être mon papa, il est d'abord le Père de Jésus-Christ. Et ensuite, j'ai été adopté, parce que j'ai été uni à Jésus-Christ. Je suis devenu enfant. Mais ce n'est pas tout. Écoutez ce que dit Paul. Le Père des miséricordes. Le Dieu de toute consolation. Ce n'est pas un Dieu méchant. Ce n'est pas un Père méchant. Il n'est pas distant. Il est miséricordieux. Il est comme Jésus, parce que Jésus est comme son Père, tel Père, tel Fils. Ici, je vais m'attarder un peu sur la terminologie. C'est important pour comprendre le plus possible les Écritures. Dans les Épîtres, sauf exception, quand vous voyez le mot « Dieu », ça réfère au Père, dans les Épîtres et aussi dans les évangiles, de manière générale. Sauf exception. De manière générale, Dieu désigne le Père. Et dans les Épîtres, Seigneur désigne Jésus-Christ. OK? C'est important. Parce qu'après ça, quand il est question du mot Seigneur, bien, de qui il parle? Comme par exemple, on a pris le repas du Seigneur tout à l'heure. Paul va dire, j'ai reçu du Seigneur. Il l'a reçu de qui? De Jésus. Du Seigneur Jésus. C'est ça que ça veut dire, Seigneur. Il y a eu des révélations directes de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 8,6, un autre passage. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. C'est lui le but du chemin. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. C'est lui le chemin par lequel on va au Père. Okay? Dieu le Père, Seigneur Jésus-Christ, avec tous ses titres. Il y a des exceptions, bien sûr, à cause de l'union qui existe entre les deux, qui va nous amener tout à l'heure à la doctrine de la Trinité. Des exceptions, par exemple, des citations qui sont faites. Paul va dire dans 2 Corinthiens 6,18, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Donc, Paul cite un autre texte. Et déjà dans l'Ancien Testament, on voit cette idée-là du père et des fils et des filles. C'est intéressant, mesdames, hein? L'esprit d'adoption, l'esprit de fils, ça vous concerne autant que moi. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Là, on sait quel Seigneur il s'agit. C'est le Seigneur, l'Éternel. Je vous pose la question, au nom de qui devons-nous prier le Père? Jésus, bonne réponse. C'est là qu'il intervient dans la prière. Jean 16, 24. Toujours dans les moments d'intimité avec ses disciples. « Jusqu'à présent, dit Jésus, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Donc, demandez au Père en mon nom. leur avait enseigné, prié au Père, et après, juste avant de partir, en mon nom. Pourquoi? Parce que nul ne vient au Père que par moi. Le salut, c'est en passant par Jésus. Et ma prière, si elle monte, c'est à cause du Fils. Et je veux le reconnaître dans ma prière. Le Fils de Dieu est à la droite de Dieu, et il intercède pour moi, et c'est par lui que montent les prières. C'est le seul médiateur. Donc, en priant, par exemple, à la fin d'une prière, au nom de Jésus, on reconnaît cette médiation du Seigneur Jésus. Mais ça va plus loin. C'est en mon nom. En mon nom, ça veut dire, d'une certaine manière, de manière conforme à qui je suis, à ma volonté. Donc, ce n'est pas juste de dire à la fin d'une prière ou dans le milieu de la prière, au nom de Jésus. Il faut que ce soit en accord avec sa volonté, évidemment. Et une autre raison pour mentionner, pourquoi on mentionne le nom du Fils dans nos prières, quand on prie le Père, c'est pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si je prie le Père au nom de Jésus et que la prière est exaucée, puis ça vous est arrivé dans votre vie, qui est-ce qui est glorifié? Le Père et le Fils. Et le Père est glorifié dans le Fils. Regardez, c'est parce que, à cause de la médiation de mon Fils, que j'ai écouté votre prière. Partie 2. De ça découle des implications dans ma prière personnelle, la vôtre, le culte et l'évangélisation. Donc, je poursuis mes questions. Vous, puis répondez-moi pas. Dans votre cœur. À qui adressez-vous généralement vos prières? À qui? Généralement. Autre question. Quand un frère prie durant le culte, tout à l'heure, on a eu un culte d'adoration, le repas du Seigneur. Quand un frère prie durant le culte, savez-vous toujours à quelle personne il parle? Savez-vous toujours à qui est-ce qu'il est en train de parler? Est-ce que ça peut arriver des fois qu'on est en train de parler à quelqu'un, puis on ne sait plus à qui, puis après ça, c'est une autre personne, puis c'est des choses qu'on vit dans les assemblées. Peut-être avez-vous connu Jean-Paul Bernier. Est-ce que vous le connaissez? Vous l'avez connu? Oui, il était avec le Seigneur maintenant. Il donnait des conseils dans son livre « Le culte et le repas du Seigneur », une petite brochure. M. Bernier disait « Il faut que celui qui conduit l'assemblée dans la prière soit clair dans son esprit et dans ses paroles. » À qui s'adresse-t-il? Au Père ou au Fils? La louange et l'adoration s'adressent aussi bien à Dieu le Père qu'au Seigneur Jésus. C'est correct. Il importe cependant de distinguer entre le Père et le Fils. La Bible ne dit jamais que Dieu est mort, mais plutôt Christ est mort pour nos péchés. Ce n'est pas interchangeable. On doit distinguer le plus possible. C'est sûr que des fois, c'est difficile. Mais on doit s'efforcer de distinguer. Donc, dans le culte, dans mon annonce de l'Évangile maintenant, est-ce que je parle seulement de Jésus? Quand j'évangélise quelqu'un, c'est correct, parler de Jésus, c'est parfait. Mais est-ce que je parle seulement de Jésus? Paul va dire dans Actes 20:22 aux anciens d'Éphèse, c'est un contexte d'intimité, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. » Et là, il va dire un certain nombre de choses. « Annonçant aux Juifs et aux Grecs, à tout le monde, la repentance envers Dieu, le Père. » Et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il annonçait à tout le monde ces deux choses-là, la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est important dans l'annonce de l'Évangile. Parce que selon ma compréhension, c'est d'abord et avant tout le Père qui est offensé par nos péchés et envers qui il y a besoin de réconciliation de notre part. Mais pour être sauvé, ce n'est pas ma foi au Père qui sauve. C'est la foi en Jésus-Christ. Donc, la repentance envers Dieu, le Père, et la foi en son Fils Jésus-Christ, ça doit être dans notre annonce de l'Évangile pour être complet. On arrive à la troisième et dernière section que j'appelle « Une bonne théologie pour une bonne pratique ». Donc, on va approfondir les questions de la doctrine de la Trinité. Donc, cette doctrine-là, ça reflète simplement une réalité qui était déjà apparente, du moins en partie, dans l'Ancien Testament. Et je ne m'attarderai pas sur l'Ancien Testament, mais on avait l'Éternel, Yahvé, l'ange de l'Éternel, qui dans plusieurs cas désignait le Fils avant son incarnation, et l'Esprit de l'Éternel. Et je pourrais parler, donner des exemples et donner d'autres éléments, mais on n'aura pas le temps. Mais déjà, ça pointait l'idée qu'il y avait trois personnes divines. Mais c'est dans le Nouveau Testament que la révélation atteint son comble, là-dessus et sur bien d'autres choses. On va le voir pratiquement en vidéo et en audio, c'est-à-dire avec nos yeux et nos oreilles. Mettons-nous, plaçons-nous près du Jourdain en Israël lors du baptême de Jésus, dans Marc 1, 9 à 11. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Donc on a les trois personnes. Celui qui parle, puis qui parle à son Fils, c'est le Père, forcément. Jésus, le Fils, le Père, et qui envoie son Esprit pour assister Jésus dans le ministère qui va commencer. Les trois personnes travaillent ensemble, sont toujours unies, chacun à son rôle, toujours unies dans tous les aspects. On voit aussi les trois personnes, en fait les deux personnes, le Père et le Fils, à la transfiguration. Et lors de la lapidation d'Étienne, on voit les trois personnes, ou on mentionne les trois personnes, et le Fils Jésus-Christ à la droite de Dieu, debout en train d'intercéder pour Étienne, qui se faisait lapider. On les voit, les trois personnes distinctes. Elles sont distinctes, mais elles sont unies, ces trois personnes. On le voit, par exemple, dans la formule baptismale, Matthieu 28, 19, 20. « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, on voit les trois personnes solidaires. Et je ne sais pas si c'est un fait significatif, mais « au nom de », c'est au singulier. Donc, on a les trois, mais on a cette union, cette solidarité. Jésus va dire « Moi et le Père, nous sommes un. » Et qu'est-ce que ça veut dire, un? Selon ma compréhension, un, ce n'est pas d'abord et avant tout quelque chose de mathématique, d'arithmétique. C'est plutôt une question qui a rapport avec l'unité, l'union. L'unité, c'est une même nature divine. Les trois ont la même nature divine. Ils sont en union. Une union comme on n'a pas idée. Imaginez le couple meilleur que vous connaissez, là, ils sont en union dans le mariage. Et Dieu veut dire d'eux qu'ils sont une seule chair, même s'ils sont deux. Dieu les voit comme un, parce qu'ils sont en union, même s'ils sont deux. Imaginez la meilleure union, là, ça n'a aucune mesure avec la force de l'union et la beauté de l'union qui est entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Donc, l'unité, c'est union et communion. Cette union-là, elle marche parfaitement. Elle est agréable. Elle est belle. Donc, c'est ma compréhension de l'unité, de l'union. Et c'est pour ça que Jésus a dit, je pense à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Parce que le Père est en moi, on est en union. Jésus n'est pas le Père, mais le Père est en union avec lui. Et il lui ressemble, tel Père, tel Fils. Il est l'image de Dieu, son empreinte. Quand tu vois le Fils, à quelque part, tu vois le Père. Maintenant, les questions de terminologie dans cette doctrine de la Trinité. Je fais une citation du livre « Introduction à la théologie » de Paul Hens. Le terme « Trinité » n'est pas le plus approprié, parce qu'il souligne seulement les trois personnes, mais non l'unité dans la Trinité. Le mot « triunité » semble mieux exprimer la doctrine. Fait qu'il faudrait changer peut-être de vocabulaire. Mais moi, je vais apporter également des nuances, humblement. Avec les deux termes, j'ai une certaine difficulté, pas sur le concept, mais sur la question de terminologie. C'est pas un terme qui est mentionné dans l'Écriture. Bon, jusque-là, c'est quand même pas un problème majeur, mais il faut le savoir. Le terme Trinité n'est pas dans les Écritures. Mais c'est surtout que ce n'est pas un nom propre. Ça ne doit pas être un nom propre. Dieu ne s'est jamais appelé « Je suis la Trinité ». Je suis celui qui suis. Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Jamais une de ces personnes ne s'est présentée comme la Trinité. Et donc, j'ai de la difficulté à aller plus loin que la doctrine de la Trinité et mettre un T majuscule. Vous allez dire, il est pointilleux, Marc Hébert. Mais non, je ne veux pas appeler mon Dieu avec un nom qu'il ne s'est pas donné. Mais j'ai besoin de la doctrine de la Trinité. Et elle a été développée dans des temps difficiles de l'Église, où il fallait expliquer pourquoi on croyait que Jésus était divin, était Dieu, était le Fils de Dieu, tout en étant un, en union. Donc, c'est ça. Et mal comprise, la doctrine de la Trinité peut engendrer des problèmes, comme n'importe quelle doctrine. Des faux raisonnements. Je vais vous donner un exemple que je vois parfois. Je dirais plus dans des milieux pentecôtisants. OK, voici un raisonnement. Il faut prier Dieu. On est d'accord avec ça? Je prie l'Esprit, car il est Dieu. OK, il faut prier Dieu. Je prie l'Esprit, car il est Dieu. Doit-on prier le Saint-Esprit? Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas marqué « Il est interdit de prier le Saint-Esprit », mais ce n'est jamais encouragé. Parce que ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas ce que le Saint-Esprit recherche. Le Saint-Esprit travaille en nous pour nous faire prier le Père au nom du Fils et non pas le prier lui-même. Bon, si ça vous arrive à l'occasion de « merci Saint-Esprit, je sens la présence de Dieu, mais je sais que c'est toi, parce que je sais que c'est toi qui fais ces choses-là, envoyé par le Père et le Fils. » OK, ça m'arrive de dire merci au Saint-Esprit, mais je ne commencerai pas à lui faire une grande prière. Sinon, on peut dériver complètement. Est-ce que Jésus et les apôtres priaient le Saint-Esprit? Non, c'est nos modèles. L'exception ne doit pas devenir la règle. Okay. Dans le catholicisme aussi, il y a beaucoup de prières au Saint-Esprit, mais ce n'est pas la seule hérésie. Deuxième exemple de faux raisonnement, il faut prier Dieu. Je prie Jésus car il est Dieu. On est d'accord? Mais je préfère prier Jésus. Moi, je préfère ça. Puis je ne veux pas me moquer de personne. C'est normal d'être attaché à son Seigneur. C'est normal. Mais je préfère prier Jésus. La règle générale, puis je mets ça entre guillemets, c'est pas une règle comme un commandement absolu, là. La règle générale ne doit pas devenir l'exception. C'est-à-dire que la règle générale qui est de prier le Père ne doit pas devenir l'exception. J'ai eu un pasteur qui était extrêmement fort en évangélisation. Ses prières étaient touchantes. Mais il priait toujours Jésus, jamais le Père. Je n'ai jamais entendu prier le Père. La règle ne doit pas devenir l'exception. Le Père et le Fils, là, il est rendu et 20, vous me laissez jusqu'à combien? 10 minutes? Le Père et le Fils, on va aller un peu plus loin dans la doctrine. Ils sont égaux en nature, mais ils n'ont pas identité de rôle. Ils n'ont pas le même rôle. Ce n'est pas interchangeable, comme je disais tout à l'heure. Je vais le donner dans le cas de la prière, puis ça serait vrai dans le cas des grandes doctrines, comme la justification, comme l'adoption, la sanctification. Mais parlons de la prière. Le Père est assis sur le trône de la grâce, nous dit Hébreux. Et il écoute les prières. Il est là pour écouter. Viens, mon enfant. Viens, viens-t'en. Approche-toi avec confiance. Le Fils est à la droite de Dieu, le Père. Je crois vraiment qu'il y a une réalité spirituelle. Le paradis, la Jérusalem céleste, il y a quelque chose en haut. Il y a un temple. Il y a une adoration. Le Père est là, le Fils est à côté. Et il intercède pour moi, pour toi, encore. Il ne se fatigue pas. Puis il est juste à côté de son Père. L'Esprit, il habite en nous et dirige nos prières. Une prière spirituelle, ça va être une prière où c'est le Saint-Esprit qui prend, entre guillemets, le contrôle. Et là, tes prières sont vraiment spirituelles. Et là, ça monte. Tes prières sont faites au nom de Jésus, sont faites en Jésus. Et ça monte et le Père écoute. Donc, ils ont chacun leur rôle. Égalité de nature, mais pas d'autorité. Et ça, ça peut choquer certaines personnes. Paul va dire, Dieu est le chef de Christ. Dans 1 Corinthiens 11:3. Dieu est le chef de Christ. C'est clair, hein? Moi, je trouve ça clair. Je n'ai pas de problème avec ça. Puis je pense que Jésus, il n'a pas du tout de problème avec ça. Pas du tout. Il aime tellement son Père, là, c'est facile. Il l'aime au bout. Comme vous n'avez jamais aimé votre Père, comme je n'ai jamais aimé mon Père. Lui, il aime son Père. Il n'y a aucune misère que c'est le Père qui est le chef. Le Fils prie le Père. Avez-vous déjà vu dans l'Écriture le Père qui prie le Fils? Le Fils obéit au Père. Ma nourriture, c'est de faire ta volonté. Non pas ma volonté, mais la tienne. Il se nourrit de ça. C'est sa joie. Même si parfois, ça a été très difficile. C'est pour ça que Jésus va dire, le Père est plus grand que moi. Et des fois, il y a certaines explications. On veut défendre la divinité du Fils, puis on doit la défendre, mais on doit la défendre correctement. Moi, je pense que si ça veut dire le Père est plus grand que moi, c'est lui le chef suprême. Je pense qu'on peut l'expliquer simplement comme ça. Et ça simplifie bien les choses et ça évite bien des débats. Maintenant, ça, cette relation-là qui existait quand Jésus était sur la terre, homme, il est toujours homme, mais sur la terre, elle existait avant. Et là, je n'ai pas le temps d'y aller, mais dans les Proverbes, le Proverbe 8, où on voit la sagesse qui parle, moi, la sagesse. Et puis, on pourrait y aller, mais ça parle du Fils de Dieu avant son incarnation. La plupart des commentateurs s'accordent là-dessus. Et ça parle là, qu'il a été enfanté. Et puis là, je ne dis pas que Jésus n'a eu un moment où il n'a pas existé. Non, il est l'Éternel. Je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Mais il a été enfanté, engendré. Bon. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le Fils. Et c'est pour ça que le Père s'appelle le Père. Parce que c'est une relation de Père-enfant. Mais lui, c'est le Fils unique, monogenèse, je pense, dans le grec, là, dans Jean 1. Le Fils unique, c'est monogenèse. Et cette relation-là va continuer dans l'éternité. Ça ne changera pas. 1 Corinthiens 15, 24-28, là, Paul va parler de la résurrection et de ce qui s'en vient après. Et il va dire, ensuite, après plusieurs choses, viendra la fin. Quand Jésus, le Fils, remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Hein, Jésus, à la fin de Matthieu, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. M'a été donné. A été donné par qui? Pas par le diable, hein? Non, par le Père. Tout pouvoir m'a été donné. Et il va remettre toutes choses. Pourquoi? Afin que Dieu soit tout en tous. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais je sais qu'il va remettre ça à son Père. et puis il n'y aura aucun problème. Et ça n'enlèvera pas sa divinité. Mais on va être tout ensemble. Le Père va être en nous parfaitement, et nous, on va être parfaitement dans le Père, dans cette union-là. On ne perdra pas notre individualité, mais l'union va être comme elle n'a jamais été. Tout en tous. En conclusion, je reviens avec mon illustration du papa avec sa petite fille ou son petit garçon. Par notre foi au Fils unique, Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Hey, vous êtes des enfants de Dieu. C'est pas rien, là. Je suis un enfant de Dieu, le Père. Et ça n'a pas été encore complètement manifesté, mais ça va le devenir un jour. Il va y avoir une différence. On va être héritier en plus, parce qu'un papa prépare un héritage pour ses enfants. Mais nous connaissons peu notre Père. Je ne parle pas de tout le monde. Mais moi, il y a vraiment eu un temps où je connaissais vraiment très peu mon Père. Très, très peu. Puis je remercie Dieu d'avoir rétabli ma relation avec mon Père. Puis je prie pour chacun de vous. Je parle de mon Père physique. Que chacun de vous, si vous avez quelque chose contre votre Père, parce que ça arrive des fois qu'on est déçu de notre Père terrestre, pardonnez-lui. Demandez à Dieu de vous donner la force de lui pardonner, parce que c'est important. Mais votre vrai Père céleste, lui, est toujours correct. Mais des fois, on le connaît peu et on se fait de fausses idées sur lui, ce qui fait qu'on a peur d'aller à lui. Mais le désir de Jésus-Christ, qui aime son Père, c'est que nous aussi, on le connaisse. On le connaisse de plus en plus. Puis ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est lui-même qui le dit. Puis on va le lire, et puis on va terminer là-dessus. Donc, Jean 17, 25-26, ce qu'on appelle la prière sacerdotale ou une prière d'intercession que Jésus adresse pour ses disciples et ceux qui vont suivre. Il l'adresse auprès de son Père. Père juste. Regardez l'idée qu'avait Jésus de son Père. Père juste. Le monde ne t'a pas connu. T'as point connu. Mais moi, je t'ai connu. Le Fils connaît le Père. Pas juste intellectuellement, il le connaît par expérience. Moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Il parlait de ses disciples proches, mais il priait aussi pour les autres qui allaient croire. C'est vous aussi. Ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, ta personne. C'est ça que ça veut dire, le nom. Je t'ai fait connaître. J'ai fait connaître ta personne. Et je leur ferai connaître. Vous voyez, j'ai souligné le mot « connaître ». Est-ce que c'est clair que Jésus veut qu'on connaisse le Père? Ça ne peut pas être plus clair que ça. Fait que, on va prier. Puis, moi, je pense que cette prière-là, Jésus l'a fait encore. Peut-être autrement, mais le besoin est toujours là. Et imaginons Jésus qui reprend les mêmes mots, du haut des cieux à la droite de son Père, et qui prie pour toi. OK? Je vais prier. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci, tes enfants ici au Cap, ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, ta personne, et je le leur ferai connaître. Je vais continuer de leur faire connaître. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen.